Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Ce travail qui est autour de la fantaisie, autour du merveilleux, autour du fantastique, c'est pour moi l'écologie de l'âme.
RTL.
On ne peut retrouver l'harmonie qu'en retrouvant l'âme de la nature.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez acheté votre sapin de Noël, vous allez bientôt le décorer. Et parmi les personnages que vous accrocherez aux branches, il y aura sans doute de drôles de lutins. Mais au fait, qui sont ces lutins? De quelle légende sont-ils les héros? Et les trolls sont-ils forcément méchants? On a plein de questions à poser à notre invité Pierre Dubois. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous vous définissez comme elficologue.
C'est quoi
un elficologue?
C'est-à-dire que se définir comme écrivain, c'est bien, mais écrire quoi? C'est du genre, vous écrivez dans quoi, etc., etc. Et de dire, voilà, moi j'écris sur les nains, sur les elfes, sur les fées, sur les trolls, je soulève des rosolis sapiétants, des fougères, des choses comme ça, dans la mousse, dans le lichen, à m'en mettre plein les oreilles, pour dénicher sous les racines des petits êtres fuyants et cachés, ça n'est pas très sérieux. Donc, comme je voulais quand même réhabiliter quelque part les légendes, les contes, parce qu'on en a bien besoin, puisque c'est quand même l'écologie de l'âme.
Ce qu'on vous entendait dire. Oui.
Voilà. Donc j'ai dit comme ça chez Pivot, je suis elficologue.
Parce que le log,
c'est né dans l'émission de Bernard.
Oui, parce que
ce néologisme.
Oui, voilà, parce que il s'intéressait à la littérature. Bon, il s'intéressait à la littérature, mais là justement les fées, il connaissait pas trop. C'est vrai que c'est un sujet, les fées, les elfes, c'est pas très très français, quoi. En fait, nous on a quand même plutôt une littérature trois pièces cuisine. Donc le fait de faire rentrer les grandes légendes, le grand souffle sauvage des elfes, des trolls, etc. C'est pas tout à fait. Donc il m'avait demandé de venir dans l'après-midi pour parler un petit peu des fées. Et c'est là où je lui ai dit, moi je suis elficologue. Donc évidemment,
c'était. Et c'est resté.
Oui, voilà, le log, c'est archéologue, géologue, ça fait. Et c'était au départ pas un gag, mais tout au moins. Et j'ai commencé à recevoir du courrier de jeunes me disant, voilà, je voudrais devenir elficologue, que dois-je faire comme étude?
Donc votre passion, voilà, et votre sujet d'étude sont les elfes, les sorcières, les trolls, les légendes qui s'y rattachent. Vous allez nous parler d'ailleurs de ces trolls dans quelques instants, mais d'abord, nous sommes bientôt dans la période, nous sommes dans la période de Noël d'ailleurs. D'où viennent les lutins du Père Noël? Et à quoi ressemble-t-il?
Voilà, mais les lutins du Père Noël, d'abord le Père Noël c'est un vieux personnage qui représente le bonhomme hiver, qui est vraiment un personnage sauvage. Le premier Père Noël était une espèce d'Hercule barbu, il ressemblait d'ailleurs à une espèce de troll, et on le trouve un petit peu, c'est universel, hein. C'est un peu universel, mais plutôt du Nord. Et ce Père Noël, pour fabriquer tous ses jouets, avait besoin de petits nains, d'elfes, mais surtout, en fait, le Père Noël, c'est le grand maître de tout cet univers, de ce royaume secret, mystérieux,
des ouvriers,
forêts,
c'est ça,
voilà.
Les lutins, ils sont
alors,
tout petits.
Oui, enfin, il y a des grands lutins, des petits lutins. Il fallait un monde grouillant de gnomes, de crapoussins cropignotants, de choses qui bougent comme ça, qui sautillent dans les forêts. C'est très mystérieux et ça amène du mystère. Ça amène surtout le fait aussi de passer par les cheminées.
Ils viennent d'où ces lutins?
Les lutins, disons, font partie d'un monde, le monde de l'au-delà, du monde fantastique, de la féerie. Donc, ce sont des êtres, ce sont les esprits élémentaires, ce sont les petits dieux, en fait. Donc, les esprits élémentaires, il y a l'eau. Alors, ce sont plutôt les naïades, ce sont les ondines, ce sont les sirènes. Il y a les êtres du feu, les dragons qui crache le feu, mais il y a aussi les salamandres.
C'est plus chaud d'un seul coup.
Ouais, d'ailleurs, j'en ai mon écharpe. Et il y a aussi donc les êtres de l'air qui sont plutôt les elfes, hein, qui ont des ailes un petit peu, puis qui sont plus légers, qui sont plus aériens. Et les fées aussi quelque part. Et les êtres de la terre, les êtres de la qui protègent les trésors. C'est pour ça les sept nains, les fameux sept nains de Blanche-Neige. protègent. Ils protègent, sont des mineurs. Ils protègent les mines de diamants, d'or, les minerais. Et donc le monde souterrain, justement, ce sont les nains, ce sont tous ces petits êtres là, agronés, aux oreilles pointues.
Et on va continuer de raconter ces légendes grâce à vous, Pierre Dubois, notamment toutes celles qui sont liées à Noël. Et tiens, la légende du solstice d'hiver. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
Et ce soir sur RTL, on est curieux des légendes de Noël grâce à notre invité Pierre Dubois qui publie Le Royaume du Nord et des Trolls aux éditions Oebeke. Vous racontez notamment la légende du solstice d'hiver. C'est quoi cette légende? Pourquoi elle est importante?
Bien, le solstice d'hiver, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Lorsqu'on dit que dans Astérix, par exemple, ce qu'ils ont peur surtout, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Et qu'est-ce que c'est que ce ciel qui leur tombait sur la tête? C'était l'hiver. Parce que donc, à l'époque des homo sapiens, c'est de nos ancêtres, de nos grands-grands-grands-grands-grands-pères, brusquement, la nature s'étiolait, ils voyaient tomber les feuilles. Il y avait les premiers frissons, ils avaient froid, etc. Il n'y avait plus rien à croûter, il n'y avait plus du tout de baies, de fruits, ni rien. Les petits lapins se planquaient dans les terriers. Et par contre, arrivaient les loups, les prédateurs, et ils se mettaient tout autour du feu, et ils se racontaient des histoires. Ils avaient peur que justement ce ciel demeure, ce froid demeure. Mmh. Et comme ils avaient besoin de mettre des images pour exorciser leur peur, eh bien, la nuit, l'hiver est devenu la mère Gagache, est devenu Girkarline, c'est-à-dire la sorcière du froid. Jette son haleine glacée et qui tue tout, qui touche avec ses ongles toute la terre qui va mourir, etc. Et donc là, ils attendaient autour du feu et ils se racontaient des histoires pour ne plus avoir peur, pour se rassurer, un petit peu comme les adolescents boutonneux quand ils vont en camping, la première chose qu'ils font, c'est de se mettre autour d'un petit feu, de cramer des chamallows.
Ah, ça me rappelle ça,
moi, c'est ce que j'allais dire. Ouais, exactement.
C'est là où le monstre
est reconnu sur les chamallows, moi sur adolescent boutonneux.
Ah, vous êtes aimable, Thomas.
Et c'est là où le monstre, le croque-mitaine arrive. Et donc là, c'était le croque-mitaine, c'était l'époque du croque-mitaine, l'hiver. Donc on attendait un petit sursaut, une petite lumière quand même qui arrive pour trouer un peu l'espace, les nuits profondes, les ténèbres. Et dès que les jours rallongeaient et soient égaux avec les nuits, c'était le solstice, c'est-à-dire la lumière revenait, le soleil revenait, et là, dans les pays scandinaves, c'était un petit tompt, c'est-à-dire un nain, un lutin, lui est parti sur la montagne et a vu pour la première fois cette lueur revenir, et il est descendu au village en disant « la lumière revient », et la lumière fut et pendant toute une saison, et bien ça a recommencé, mais disons que cette légende, c'est la Noël, c'est la première Noël, le fait de voir que la lumière revient. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a pris des brandons, on a allumé un grand feu pour rendre hommage au soleil, et ça existe toujours aujourd'hui avec la bûche qui maintenant est en chocolat ou en je ne sais quoi, en pâte d'amande. Mais au départ, c'est une bûche qu'on va chercher dans la forêt, qui est sacrée, et qu'on met dans le foyer, comme si c'était un retour du soleil. Et aujourd'hui encore, le gui, le houx, toute cette végétation est une végétation verte qui ne meurt pas, qui est une végétation éternelle.
On adore vous écouter, Pierre Dubois. Vous êtes un peu comme notre tonton au coin du feu. D'ailleurs, vous avez chaussé vos lunettes sur le bout du nez. Vous avez une belle barbe.
Venez sur mes genoux, ma fille.
Vous avez une belle voix.
On va écouter la bûche ensemble.
Ah, ça se réchauffe.
Tiens, pour se refroidir un peu partout dans l'est de la France, c'est quoi la légende de la tante Harry?
À la tante Harry, alors...
Elle est gentille ou elle est méchante, elle?
Disons qu'elle est, comme toujours, avec ces personnages, ils sont à la fois gentils et méchants. Il y a un côté, c'est l'ombre et la lumière, toujours. Et la tante Harry, donc, c'est une sorcière, mais qui peut se montrer bonne fée. C'est une espèce de Père Noël, mais féminin, qui était en Franche-Comté. Et elle avait des pattes de poule. Elle avait des pattes de poule. Et donc, comme la Befana qu'on va trouver en Italie, elle arrive dans la nuit et puis elle distribue des cadeaux. Alors, les enfants sages Il y en a qui n'en auront pas, je crois. qui sont à l'Élysée, etc. Je crois qu'ils n'auront rien du tout.
C'est même de la politique dans la curiosité.
Non, mais c'est vrai. Ah, bah oui, elle s'en mêle. Donc, elle distribuait des martinets, du charbon, des trucs comme ça. Et par contre, aux enfants sages, eh bien, elle offrait des bonbons, elle offrait des friandises.
Et dans un instant, sur RTL, d'autres légendes de Noël. Est-ce que vous connaissez, par exemple, Thomas, le bélier bouc scandinave?
Non, mais j'ai très envie de le rencontrer.
Et les calicanzaris grecs, non plus?
Bien prononcé.
Restez avec nous, on va vous les présenter.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nous sommes avec un elficologue ce soir. C'est un amoureux et passionné des elfes, des fées, un spécialiste des légendes, des trolls et des sorcières. Nous sommes avec Pierre Dubois. D'ailleurs, parmi tous ces personnages féeriques, il y en a un qui nous plaît beaucoup et qui nous intrigue, qui va débarquer à Noël, c'est le Bélier Bouc. Mais c'est qui celui-là?
Mais c'est le Yule Bouc, enfin le Yule Bouc, c'est en fait Yule, c'est Noël. C'est le nom pour la Noël dans les pays scandinaves. Et en fait, il apparaissait. Alors, donc, c'est un tomte sur un bouc.
C'est quoi un tomte?
Un quoi?
Un tomte, c'est un lutin, c'est un nain de là-bas.
Ah oui, pardon, on aurait dû savoir.
Un des petits personnages un des compagnons du Père Noël. Et il venait donc apporter des cadeaux donc à cheval sur un bouc. Mais surtout, disons que le Yule Bouc, c'est le bouc de Noël. Le bouc de Noël, ça remonte encore plus loin. C'est Kernuno, c'est le grand dieu Pan. C'est le dieu de la nature, c'est le premier dieu qu'on voit sur les cavernes dessinées, c'est-à-dire l'homme, enfin le dieu avec ses pattes de bouc et ses grandes cornes. Et donc quand le christianisme est venu, est né, on a fait le diable puisqu'il fallait absolument tuer, exorciser ce vieux dieu des anciens pour en avoir un autre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait naître Jésus à la Noël pour une renaissance, pour une autre lumière, pour une autre religion. Donc il fallait tuer, brûler le vieux bouc. Et c'est pour ça qu'on a mis au diable la barbichette, les cornes du bouc et les pieds de bouc aussi, et tout le reste d'ailleurs.
Alors, dans notre galerie de portraits de trolls et de lutins, Pierre Dubois, qu'on a trouvé dans votre livre Le Royaume du Nord et des Trolls, publié aux éditions Ebeke, on part aussi dans le sud de l'Europe quand même, notamment en Grèce. Alors, par exemple, là-bas, les enfants ont peur des calicanzaris. Pourquoi ils en ont peur?
Alors, les calicanzaris ressemblent effectivement à ces lutins aussi du Nord, parce que c'est ça, ouais, c'est ce que je viens de raconter pratiquement, c'est-à-dire que la nouvelle religion ne plaisait pas du tout aux personnages, aux dieux, aux demi-dieux, qui avaient été chassés de la nature par la nouvelle religion, par le christianisme. Donc les calicanzaris, c'est des espèces de lutins, d'anciens dieux, de grands dieux qui se sont rabougris, qui sont devenus de plus en plus petits. Moins on croyait en eux, plus ils sont devenus petits, mais aussi rogneux. Donc ils se vengent le jour de la Noël. Ils se disent bah non, et nous on a encore notre place.
C'est un adjectif, ça, rogneux.
Oui, ils sont
être rogneux,
mais très rogneux, mais ronchons.
Surtout on les voit.
Vous êtes rogneux, ça peut vous arriver. Rarement, vous êtes charmant.
Ils descendent de ce qui reste de l'Olympe et ils s'épandent comme ça dans la campagne et ils vont massacrer les sapins de Noël, les boules, les crèches, surtout les crèches. Ils sont pas contents qu'on a pris leur place. Donc mais ce qui est amusant, c'est il y avait un dessinateur qui est décédé il y a peu de temps, qui s'appelait Fred et qui avait Philémon,
magnifique bande dessinée,
qui était un grand ami et qui
le
était
naufragé
grec.
Du A.
Voilà, le monde du A, voilà. Ouais. Et lorsqu'il avait lu ce que j'avais écrit sur les calicanzaris, il était complètement ému, parce que c'est un peu ce que lui racontaient son grand-père et son père, et ce qu'il mettait un petit peu dans ses bandes dessinées à lui, cette espèce de merveilleux de ces vieilles légendes gréco-romaines, mais qui subsistent toujours, malgré, bon, si elles sont un petit peu tire-bouchonnées aujourd'hui, retransformées par les effets spéciaux, spéciaux. Néanmoins,
mais c'est vrai que le cinéma s'en empare beaucoup de ce monde que vous.
Ah, tout à fait.
On a eu un extrait de La Reine des Neiges tout à l'heure, ça c'est Disney. Il y a eu, je sais pas, Harry Potter. Il y a le Tolkien qui a été adapté, Le Seigneur des Anneaux. On en voit partout au cinéma. Pourquoi c'est à la mode d'une certaine façon?
Parce qu'on avait oublié ça. Au Moyen-Âge, on oublie déjà les faits. Après, elles disparaissent, les faits, alors que pourtant, et Viviane est là, nous amène l'amour courtois, donne une âme au chevalier un petit peu brut de fonderie. Ensuite, à la Renaissance, elles réapparaissent, elles disparaissent à nouveau, elles reviennent quand on a besoin d'elles au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, au grand siècle des Lumières. Elle dit oui, mais attention, il y a le clair-obscur, il ne faut pas nous oublier, on est toujours là.
Parce qu'elles font du bien, ces faits,
elles amènent l'enfance à nouveau, mais l'enfance du monde, à nouveau l'imaginaire, le besoin de rêve. Elles nous réconfortent quelque part que le monde n'est pas uniquement du béton, n'est pas uniquement de tristes individus. Il y a toujours une part de nous qui est à sauver. Il y a quelque chose qui rit. Et là,
une part de nous qui veut croire aussi, c'est ça? Qui veut rêver,
oui,
et croire en quelque chose?
Qui veut rêver, qui veut croire. Et les contes de fées, c'était ça aussi. C'est le conte de fées, au lieu de le matin, je pense qu'aux enfants devraient toujours raconter une histoire. Qu'est-ce que c'était ces contes de fées qu'on racontait aux enfants? C'était des récits initiatiques. On prend un enfant et on le lâche comme ça dans la grande forêt de la vie. Et il doit traverser, et aussi petit soit-il, si c'est un petit pousset, il va rencontrer des ogres. Et Dieu sait si on en rencontre des ogres aujourd'hui encore. Il va rencontrer des dragons, il va rencontrer des fausses fées, il va rencontrer des vraies fées. Mais s'il aide, par exemple, c'est une forme d'écologie. S'il aide une petite fourmi, un hyménoptère aquatifisseur entre nous, qui est en train de se noyer quelque part et qui lui fait du bouche à bouche, qui lui tripote les mandibules, il va la sauver. Un peu plus loin, il rencontre un faucon, mais qui se révélera plus tard être peut-être un dragon qui va l'aider. Il va rencontrer une vieille femme, une tellement ridée qu'on pourrait lui visser son chapeau sur la tête et il la retape un petit peu. Elle se révélera aussi être une belle, à nul autre pareille, une princesse aurore. Et c'est ça, c'est la quête du Graal passe à travers le conte.
Pierre
c'est
Dubois, vous êtes un conteur merveilleux et on va continuer de vous écouter dans un instant sur RTL, nous raconter d'autres histoires de trolls, d'elfes, de fées, des légendes, quoi.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On vous souhaite la bienvenue dans le royaume du Nord et des trolls. C'est la promesse du livre que publie notre invité Pierre Dubois aux éditions Oebeke. Les trolls, on en parle depuis le début de cette émission, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. À quoi ça ressemble? C'est quoi? Et ça sert à quoi?
Ah, ça sert justement, c'est une forme d'écologie. Le troll, en fait, représente les forces vives de la nature. Alors, ils sont énormes, évidemment, parce qu'ils représentent... Oui, ce sont des géants. Le troll, c'est une montagne. Le troll, c'est une montagne hirsute. C'est aussi un sapin.
Comment ça, c'est aussi un sapin?
Oui,
le troll n'est pas un être vivant?
Si, mais il peut se transformer en sapin. Il représente en fait toute la nature, le fjord. Il représente des cascades, il représente la mer, il représente les profondeurs, les abysses, il représente les racines, il représente toute la nature en fait. Et il défend la forêt, c'est l'esprit de la forêt. C'est l'esprit vraiment du Nord, le troll.
Donc il a différentes apparences, c'est ça, Pierre Dubois, le troll?
Il peut prendre toutes les apparences.
En fonction de ce qu'il défend, en gros.
Voilà, il peut être grand, il peut être petit, il défend les animaux, mais c'est le langage à peu près de tout. Les esprits de la nature qui disent attention, si vous jetez des immondices dans l'eau, vous allez tuer les sirènes, vous allez tuer les esprits de l'eau, mais ils vont vous empoisonner. Si vous construisez trop près des grèves où il y a des ousiers, par exemple, qui sont ardennais, il y aura des inondations. Si vous construisez sur les montagnes des cités de béton pour le ski, etc., les trolls qui tiennent les montagnes vont lâcher, il y aura des avalanches. Et ça me semble, c'était...
Donc ce sont les premiers écolos, en fait, c'est ça?
Ce sont les premiers écolos. Mais les légendes, c'est ça. C'est mettre en garde les gens. Attention, n'allez pas trop loin. Le conte, c'est vraiment...
Mais est-ce que les hommes les ont pas aussi inventés pour se rassurer, expliquer ce qui était à l'époque inexplicable?
Ah ben, on dit que le troll était là avant l'homme. c'est un dieu. Et même avant les nouveaux dieux, c'est vraiment les dieux anciens. Le, le troll est un personnage qui est bon comme la nature. La nature est bonne,
mais qui peut être méchant aussi.
Voilà,
qui parfois peut être méchant, elle se venge de la nature.
Si justement on vient blesser, on raconte par exemple que celui qui rentre dans la forêt des trolls, qui rentre dans la forêt avec une hache, le manche de sa hache est déjà contre lui. Si par contre on rentre et donc si on rentre dans la forêt pour menacer la forêt, l'esprit de la forêt va se montrer en troll. Il va se montrer vraiment en géant, en ogre, et va dévorer l'intrus. Par contre, si on rentre dans la forêt pour écouter le murmure des sources, pour écouter le chant du vent, pour rencontrer sa petite amie, pour respirer les fleurs, les gnafalnins, les solices, toute cette flore, l'esprit de la forêt va utiliser tout ce qu'il y a de plus joli dans la forêt, va utiliser deux gouttes d'eau pour se faire d'un regard liquide, va goûter une cerise pour se faire une bouche embrassée, va utiliser les parfums de la forêt, va utiliser les mousses pour se faire une robe, va utiliser les ailes des papillons de libellule, et va se montrer belle à nul autre pareil.
Mais justement, est-ce qu'il y a des trolls femmes?
Oui, il y a des trollesses.
Dans ce folklore scandinave.
Ce sont des trollesses. On les rencontre partout, les trollesses d'ailleurs.
Elles sont comment? Elles sont jolies, les trollesses?
Elles sont fort jolies. Non, les trollesses, elles sont ogresses aussi. Donc,
elles sont quoi?
Ogresses.
Ogresses.
Elles mangent la viande fraîche. Pas que les enfants, les adultes
les
aussi.
Les hommes méchants aussi.
Voilà, oui, les hommes méchants. Mais elles peuvent se changer. Les trolls, elles peuvent être très jolies. Alors, comment on les reconnaît aussi, si ce sont vraiment des trolls? On les prend dans les bras.
Oui, il ne faudrait pas se faire avoir. Quand même.
Ouais, ouais. Et on sent sous les jupes s'il y a une queue. Une queue de vache.
Et c'est une queue de vache,
mais c'est une trollesse. C'est pas vraiment la jolie paysanne qu'on croyait couchée sur l'herbette avec un air. C'est une. Ou alors, elle a aussi le dos creux. Et un dos non seulement creux, mais avec de vilaines choses dedans qui grouillent. Il y a des vers, il y a des. Oui, elles sont assez.
Puis elles ont des jolis prénoms aussi. Il y en a une qui s'appelle Uldre.
La Uldre.
Oui, c'est celle-là, voilà.
C'est joli pour une femme, Uldre.
Une petite Uldre. Mmh. Elles sont jolies. À première vue, elles sont jolies, mais elles peuvent être dangereuses.
Le plus méchant, le plus violent, le plus craint des trolls, c'est qui? C'est le kraken, peut-être, si on parle des trolls aquatiques, par exemple.
Alors oui,
c'est quoi le kraken?
Oui, disons que tous les trolls de la mer, alors les trolls de la mer ne sont pas très, très sympathiques, puisqu'ils représentent la tempête. Mmh. Ils représentent la tempête. Et il y a d'ailleurs un peintre qui a peint les trolls, qui s'appelait Bower, qui est la couverture du bouquin d'ailleurs.
C'est
un des plus grands dessinateurs de trolls qui, avec sa femme et ses enfants, quoi, traversait un lac et a été englouti. Il y a eu une grande vague et on raconte justement parce qu'il est. Alors il y a deux versions. Les uns disent que c'est parce que il avait si bien raconté les histoires, si bien dessiné, si bien peint les trolls, que les trolls ont voulu le prendre chez eux pour qu'ils connaissent une vie éternelle, parce que les trolls ne meurent jamais. Et d'autres disent que c'est parce que justement il a trahi le secret des trolls, il a trop raconté les mystères des trolls, que là les trolls se sont vengés et l'ont dévoré.
Merci beaucoup Pierre Dubois, c'était passionnant. Ces illustrations et vos textes sur le royaume du Nord et des trolls sont à découvrir dans ce livre publié aux éditions Oé Béquet.
Vous écoutez RTL.